Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis en compagnie de Valérie Dusmeny. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de l'association qui est basée à Cray, Village Vivant, Valérie.
Alors Village Vivant, effectivement, est une association basée à Cray qui s'est créée l'année dernière, dont l'objectif est d'œuvrer sur les problématiques de désertification des cœurs de ville en zone rurale. Donc on s'attaque à un symptôme très visuel et très criant qui peut parler à tout le monde, c'est les vitrines vides, les locaux vacants qui se développent de plus en plus dans les villes moyennes mais aussi dans les zones rurales et qui donnent ce sentiment d'abandon, de morosité quand on se promène en centre-ville.
Alors il y a plusieurs phénomènes dus à ça, est-ce qu'on peut peut-être rapidement décrire, est-ce que c'est simplement cet exode rural qu'on nous martèle depuis déjà je sais pas, avant-guerre, qui vient créer ce phénomène ?
Oui, le phénomène est très complexe et n'est pas dû qu'à cet exode. Il est dû de manière très générale et qui va parler à beaucoup de monde au développement de la périphérisation des activités, les zones commerciales qui se sont développées à l'entrée et à la sortie des villes et qui ont considérablement vidé les centres-villes. Aujourd'hui, 20 ans après ça, l'Association des maires ruraux de France qui fait un gros lobbying sur cette question a pu constater que quand une zone commerciale s'ouvre en périphérie, le centre-ville se vide en un an. Donc ça, c'est une des raisons principales. Une des autres raisons, c'est aussi le e-commerce qui se relie aussi aux évolutions des modes de vie et des modes de consommation. Les gens consomment autrement, donc beaucoup sur Internet, beaucoup dans les zones commerciales. Et puis ensuite, il y a aussi le côté porteur de projet et activité, parce qu'on se rend compte qu'il y a un gros turnover aussi des porteurs de projet qui s'installent, qui ne tiennent pas, dû à la consommation des citoyens, mais aussi parce que leurs activités ne sont pas forcément en lien avec ce qui pourrait fonctionner en centre-ville. Et ils ont du mal à s'adapter. Une autre cause un petit peu de ce phénomène-là, c'est plutôt du côté des propriétaires des locaux à louer ou à vendre qui ont des prix parfois très élevés, plus en lien avec le marché d'aujourd'hui, des prix pratiqués dans les années 80 qui aujourd'hui ont plus de sens, pour des locaux qui sont souvent vétustes, trop petits et donc pas adaptés aux porteurs de projets.
Donc ça fait quand même un paquet de facteurs on a aussi logique, une nouvelle d'urbanisme qui ont fait des grandes déviations pour éviter complètement de passer dans certains des villages. On pense notamment à Saillant, par exemple, qui un jour, même si c'était pas très pratique peut-être d'être traversé par des camions, c'est sûr, c'est pas très agréable. La déviation a fait qu'on n'a même plus besoin de passer dans ce village. La question s'est posée aussi sur la ville de Die. Est-ce que ça aussi, ces grands choix urbanistes sont-ils toujours bons pour maintenir un centre-ville actif ?
Alors ça, c'est un grand débat de société que je relierais pour moi à la piétonnisation des centres-villes, où effectivement, est-ce que passer en voiture dans un centre-ville va favoriser les commerçants de proximité ? Moi, personnellement, je ne suis pas sûre. On se rend compte que les gens consomment quand ils sont à pied. Donc, pour moi, mettre en place une déviation...
Il y a des études avec ça, c'est plutôt à pied.
Oui, c'est plutôt à pied parce que la flânerie amène le fait de s'arrêter dans un commerce auquel on n'aurait pas pensé. Je prends un exemple très simple, on va aller dans une boulangerie acheter du pain. Si on y va en voiture, on se gare devant, on achète le pain, on s'en va. Si on se gare à l'entrée de la ville, on va passer par plusieurs commerces et on va voir, par exemple, peut-être une paire de chaussures qui va nous flasher dans une vitrine et on va dire « Ah, bah tiens, on va peut-être l'acheter alors qu'on n'y aurait pas pensé ». Ça marche pas à tous les coups évidemment, mais
c'est le principe du centre commercial. Hein. On est obligé de se taper tous les rayons et puis on
c'est
est tenté.
Exactement. Ouais. Bah de toute façon, il y a une grande question, c'est est-ce que les zones commerciales sont les nouveaux centres-villes ? Ça, ouais. C'est une grande question qui se pose. Mais en tout cas, pour revenir sur la question que tu poses, c'est vrai que ce qu'il y a derrière, c'est comment on fait pour que les gens viennent en centre-ville et le fait de mettre des parkings à proximité du centre-ville, c'est quelque chose qui va favoriser les commerçants de proximité. Mais ça, faut que ça rentre dans les mœurs aussi parce que le développement de la voiture, c'est quelque chose qui, quand c'est apparu, voilà, les gens ils l'ont utilisé à fond, c'était un nouveau mode de consommation, on parle de ça, c'était il y a des dizaines d'années, mais il faut que les gens aussi réapprennent à marcher et à laisser leur voiture de côté. Et je pense à ça parce qu'aussi, derrière, on a tout ce qui est lié aux problématiques de santé. Voilà, il n'y a pas que les commerces à faire vivre en centre-ville. Il y a aussi comment nous, on maintient une forme de santé. Et le tout voiture n'est pas forcément la bonne solution.
Village Vivant, donc, s'installe dans un village qu'il choisit, dans l'idée justement de transmettre un petit peu ces questionnements-là. Faire revivre un centre-ville, ça passe par exemple par piétonniser ce centre-ville, par favoriser son accès avec des parkings en extérieur et par réfléchir à quel type de commerce on y met. C'est donc ce genre de solution que vous venez apporter ?
Voilà, alors nous, on ne va pas apporter des solutions sur l'urbanisation. Hein. C'est des questions qui viennent souvent et où on a des avis, mais on n'est pas des urbanistes. Donc nous, on va œuvrer sur ce facteur-là le plus visible, qui est les locaux vacants, avec un process bien spécifique qui est de mettre le citoyen au cœur de ses actions. Donc effectivement, comme tu dis, il y a toute une étape de sensibilisation où on va aller vers les citoyens et on va leur demander ce qu'ils pensent de leur centre-ville, comment ils le vivent et comment ils consomment. Nous, on a des solutions, évidemment, mais notre intention, c'est plutôt d'aller titiller un peu les gens et de les faire réfléchir sur pourquoi ils iraient consommer plutôt dans une zone commerciale que dans un commerce de proximité et vice-versa. Et une fois qu'on a posé cette question-là, on va aller creuser plus loin et dire, mais quels sont les freins à la fréquentation des commerces de proximité ? Est-ce que c'est juste une question de piétonnisation et de place de parking à proximité ? Ou est-ce que c'est une question de qualité de produit, d'emplacement, de choix aussi de produits. Donc on va inviter les citoyens à aller vraiment se questionner sur ce qu'ils recherchent dans leur commerçant, enfin chez leurs commerçants de proximité. Et une fois qu'on a travaillé sur ces questions-là, on va leur demander ce qu'ils rêveraient. Moi, j'aime bien travailler aussi avec cette notion-là de dire lâchons un peu les vannes, ne réfléchissons pas à des questions de piétonnisation, de type de local, de mètre carré, de prix, etc. Rêvons, prenons le temps au départ de rêver de l'impossible, en fait, pour qu'on puisse après mettre tout ça en mode un peu concret et resserrer l'entonnoir et faire des choses qui sont possibles. Voilà, inviter un peu les gens à rêver. Pour à terme faire que le nombre de locaux vacants diminue. Donc pour ça, on propose plusieurs actions. L'installation d'un porteur de projet va évidemment être la solution, mais ça prend du temps. Donc il y a des actions plus spécifiques qui vont se faire sur la valorisation des vitrines vides, comme par exemple mettre en place une exposition d'artistes ou d'artisans, ce qui permet à la fois de valoriser la vitrine, mais aussi le patrimoine local, et de créer cette vie-là qu'on demande en centre-ville.
Quand bien même, il n'y aurait même pas d'activité dans cette vitrine-là.
Voilà. C'est ça. Quand
on
ne
pourrait pas rentrer dans le magasin, il n'y aurait rien, mais on expose en façade. Quoi.
Voilà, et on n'a plus cette vitrine vide qui donne ce sentiment de vide. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand un local se vide, après, il y a un effet domino aussi, et que ce qui est difficile, par exemple, pour un commerçant, c'est d'être entouré de locaux vides.
Mais c'est pas classe. Ah bah ouais.
Et c'est là où
d'être
après...
le seul dans sa rue, et c'est le cas à dire, hein, il y a une rue où il y a un seul commerce en activité dans toute la rue, et le reste de la rue, c'est fini, on ne fait plus de commerce dedans.
Ouais. Et ce qu'il faut comprendre dans ce phénomène-là, c'est que les commerçants sont aussi au cœur de ces actions, et qu'un commerçant qui se maintient, c'est bien, mais un commerçant qui se maintient tout seul, c'est pour lui très difficile. On parle souvent des unions de commerçants qui sont là pour animer les villes, etc. Donc ça, c'est aussi des actions possibles et favorables pour l'animation d'un centre-ville. Mais les commerçants, ils ont besoin des autres commerçants, ils ont besoin des citoyens, ils ont besoin d'être soutenus, ne serait-ce que visuellement. Et c'est vrai que quand un commerçant ouvre sa boutique et qu'il voit qu'en face et des deux côtés, c'est vide, la journée peut être un peu difficile pour lui. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est cette complexité visuelle qui fait que, à terme, bien sûr qu'il faut réinstaller des commerces et des services de proximité qui répondent aux besoins des citoyens, mais ça, comme je le disais, ça prend du temps. Donc avant, qu'est-ce qu'on fait pour que la rue paraisse moins vide, moins déserte ? Et donc nous, on a ces solutions d'exposition d'artistes. On a aussi une solution de mettre en place un mobilier urbain participatif construit avec les citoyens qui permettrait de mettre en avant l'économie circulaire. Du coup d'aller y déposer, voilà, c'est des boîtes à dons comme tout le monde connaît, on y dépose des livres, des vêtements, donc là on choisit avec les habitants ce qu'on va y déposer et on met en place un meuble esthétiquement joli qui attire l'œil devant une vitrine vide et qui va permettre là aussi de cacher ce symptôme là dans un premier temps toujours.
Alors avant qu'on s'intéresse à quelques actions de village vivant chez nous à Die, question Valérie, pourquoi Die ?
Pourquoi Die ? Parce que on a travaillé avec la communauté de communes du Diois sur ces problématiques.
Donc c'est la Comcom qui est venue vous chercher ?
On est allé se chercher ensemble, ouais. J'ai envie de dire.
En fait, comment on vous connaît, Village Vivant ? Je veux dire, qui vous subventionne, qui vous fait travailler ? Pourquoi vous choisissez d'aller poser ces actions ? Où on va vous chercher pour porter une action.
Bah, en fait, on a répondu à un appel d'offres. Mmh. À L'Oriol, où on travaille également, c'était aussi un appel d'offres. En gros, on développe notre activité. On est basé à Cray, donc on développe notre activité dans la Drôme. On est depuis plusieurs années ici à travailler sur ces différentes questions d'accompagnement de porteurs de projets dans la vallée de la Drôme. Donc les premiers contacts se sont faits entre les réseaux d'accompagnement de porteurs de projets, les communautés de communes, les mairies, et de fil en aiguille, en montant le projet, du coup, et en parlant un peu des spécialistes de ces questions-là. Voilà, il y a un appel à projet qui est né à Die sur cette problématique, donc on y a répondu.
Donc la communauté de communes s'intéresse à cette valorisation du centre-ville de Die, qui est, on le rappelle, pour le Diois, hein, à peu près 13 000 habitants, finalement le point central. Est-ce que, du coup, cette revalorisation du centre-bourg va pas aller peut-être à l'encontre d'une revitalisation aussi nécessaire sur certains de nos villages alentours, et qui du coup, bah, quand tout meurt un peu, peut-être que si Die revit, alors le reste va suivre. Quand on agit sur un territoire, est-ce que l'ensemble de son bassin versant est réfléchi aussi ?
Oui, bah c'est exactement ça, et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec la communauté de communes, c'est qu'on est vraiment dans une logique de territoire et de bassin de vie. Et il ne s'agit pas d'aller créer un commerce ici en centre-ville de Die qui irait fermer un autre commerce à Saint-Julien-en-Quin ou à Châtillon-en-Diois qui marcherait très bien. Donc il y a cette logique vraiment de territoire au sens large et de consommation au sens large. Die, ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un bourg-centre. Il est sur la route de nombreux Diois qui n'habitent pas là et qui vont consommer ici. Parce qu'on y retrouve la plupart des commerces, évidemment, mais aussi parce que c'est sur la route et les navetteurs qui travaillent à Cray ou à Valence, ils vont passer par ici et s'arrêter là. Donc il faut profiter de cette chance-là, de cette attractivité. Sans vider les centres-villes, les cœurs de ville des villages aux alentours. Donc avec la communauté de communes, on travaille vraiment à cette logique-là de territoire. Et là, actuellement, il y a une étude menée par les chambres consulaires, la CCI et la Chambre des métiers et de l'agriculture, sur justement la consommation au sens large dans le Diois et de comprendre un peu les flux. Qu'est-ce que viennent consommer les Diois ici ? Qu'est-ce qu'ils ne consomment pas ? Comment ils viennent ? Et pour avoir une compréhension, une espèce de diagnostic plus général de la consommation dans le Diois, des niveaux de vie aussi, de l'emploi. Et nous, c'est suite à cette étude-là, donc qui sera prête là à la fin de l'année, qu'on va pouvoir aussi rentrer plus dans le vif du sujet en connaissant strictement les niveaux de consommation sur Die, quoi. Parce que notre action, elle est bien à Die pendant la première année, là, qui se prolongera ensuite sur une deuxième année sur une autre activité, mais on en parlera après. Mais cette première année, on est bien sur le cœur de ville de Die, mais avec en arrière-fond une problématique plus générale.
L'objectif visé, c'est le mieux vivre ici ?
Oui, c'est très bien dit. C'est le lien social.
Bon, alors je fais une extrapolation là. On lutte pour maintenir un hôpital, par exemple, qui fait partie d'un des services qu'on pourrait dire primordial sur un secteur dont on peut penser qu'il viendrait mettre à mal le bien vivre ici. Et en même temps, de l'autre côté, on vient revitaliser un centre-ville. Voilà, votre avis là-dessus ?
Notre avis là-dessus sur une village, problématique politique.
Village vivant.
Bah, évidemment que les services médicaux au sens large doivent rester dans les centres-villes. Ça paraît évident. De toute façon, pour nous, Il faut que l'activité se maintienne en centre-ville pour qu'on retrouve justement ce lien social et ce vivre ensemble, qui, je le rappelle, a dit, n'est pas perdu. Hein. On n'est pas là, nous, dans un phénomène de désertification totale. Hein. On est dans une ville qui se maintient, mais qui est un petit peu en danger. On n'est pas là pour résoudre les problématiques de santé, etc.
Bien sûr,
oui. Mais on est là pour sensibiliser un peu à cette question. Et pour nous, en fait, si les citoyens réfléchissent à ça et travaillent sur leur mode de consommation, sur leur mode de transport, etc., on a gagné, en fait. Et après, les décisions politiques, malheureusement, nous, on n'influe pas sur ça. Mais les citoyens qui
le peuvent, ouais.
Le peuvent, ouais, et, ouais, ouais. Et je crois que, enfin, en tout cas, à Village Vivant, c'est vraiment notre ADN, le citoyen, la mobilisation citoyenne est le facteur clé de réussite, en fait, pour l'ensemble des projets qui concernent le développement d'une activité, d'un centre-ville ou de. Donc nous, on va aller appuyer sur ces questions-là.
Et puis je voulais quand même citer que, parce que tu en parlais tout à l'heure, il y a une union des commerçants à Dit quand même. Hein, voilà,
qui s'appelle C'est tout dit.
C'est ça, qui effectivement fait parfois un travail de vitalisation de ce centre-ville. Alors on va présenter maintenant, Valérie, quelques actions, notamment la très prochaine, donc Village Vivant ici à Dit, une balade urbaine en cœur de ville.
C'est ça, ça se passera le 18 novembre à Dit, l'après-midi. Donc là, c'est la première action officielle à destination du grand public et des citoyens.
Ouais. Tu es parti pour un an, là, maintenant, d'action.
Voilà, on est parti pour un an. Et donc, cette balade urbaine du 18 novembre, elle est là pour inviter les citoyens à flâner dans les rues commerçantes et à se poser des questions sur ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas. À la fois eux-mêmes se poser des questions, mais aussi nous, du coup, se nourrir de ces questionnements et de ces propositions qui vont sortir. Donc c'est une action assez, je dirais, assez globale dans le sens où elle est très large. On n'est pas sur quelque chose de très spécifique à aller justement mettre en place une exposition. Enfin, c'est pas une action concrète. Les actions concrètes, elles arriveront plus tard. Là, c'est vraiment une première action très, très large qui va permettre de réunir les citoyens autour de cette problématique-là, d'aller recueillir leurs ressentis, leurs avis et d'aller créer un cercle de citoyens qui souhaiteraient s'engager autour de ces questions de désertification et qui pourraient après soutenir les actions de Village Vivant. Mais derrière Village Vivant, il y a les commerçants, les élus, le milieu associatif, le milieu culturel, l'office du tourisme, enfin tous les acteurs locaux, pour pouvoir ensuite ne pas être seul tout au long des actions qui se passeront après et pouvoir réfléchir ensemble et collectivement et co-construire cette vision-là du centre-ville vivant.
Mais décrivons quand même un peu la journée. Alors, un rendez-vous à l'atelier, un des acteurs qui commence à être incontournable quand même dans le secteur, pour avoir notamment fait un commerce dans une rue où c'est pas évident. C'est à 14h et cette balade, comment ça se passe? On vient, on va tous se balader en même temps? Vous voulez recueillir un peu des avis sur... sur papier après
Non, ce qui
qu'est-ce
va
qu'on fait, on discute.
On discute, oui, on va beaucoup parler, parce qu'on adore ça. Donc on se retrouve effectivement à 14h à l'atelier, qui est un tiers-lieu magnifique et qui permet là, pour le coup, vraiment de faire vivre ce lien social en centre-ville, parce que c'est plus qu'un tiers-lieu, j'ai envie de dire. C'est aussi un lieu où on peut se retrouver, se rassembler, qui est ouvert à tous. Donc on se retrouve là-bas et on explique un peu le projet. On va essayer de voir d'où viennent les gens. Est-ce qu'ils viennent du centre-ville? Est-ce qu'ils viennent d'un village à côté, etc. Et ensuite, on se balade pendant une heure en groupe. On sera, il y aura quelqu'un en tête qui va pouvoir mener un peu le groupe. Et on va avoir des cadres où on va inviter les gens à prendre en photo les choses qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas et à se prononcer sur ça. Par exemple, ils aiment bien cette vitrine, ils aiment bien cette petite décoration qui aura été faite de manière informelle dans la ville. Ils aiment pas cet arbre-là qui est mal positionné. Enfin, voilà, ce qui va ressortir, c'est très libre. On invite vraiment les gens à se laisser aller. Et on va passer donc dans les rues Camille Buffardel, rue de la Mêlerie et rue Émile Laurent, qui sont les rues les plus symptomatiques, hein, où on voit bien qu'il y a des... Il y a des endroits où il y a beaucoup de commerce et il y a des endroits qu'on appelle des verrues où en fait il y a un local qui s'est vidé et finalement maintenant il y en a 3-4. Ça va permettre aux gens de prendre conscience de ça. Certains l'ont déjà fait, hein. On ne va pas non plus faire prendre conscience de tout ça. Je pense que le symptôme, il est connu. Mais l'objectif de la balade urbaine, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps de réfléchir un peu sur ça. Donc pendant une heure, on se promène, on prend les photos avec les cadres et on s'exprime. On sera suivi par un photographe et par un vidéaste qui pourra après faire un montage de cette balade. Et ensuite, on se retrouve à l'atelier où là, on débriefe tous ensemble. Et l'objectif qu'il y a derrière, qui sera une deuxième étape, c'est qu'on va travailler ensemble après sur ce qu'on appelle baludique. C'est des balades ludiques en fait en centre-ville qui se concrétisent sur une application de smartphone, donc qui est à la base très touristique, mais nous qu'on va tordre un petit peu pour que ce soit les citoyens qui construisent cette balade ludique là et qui eux-mêmes prennent des photos des endroits ou des commerces. Des commerces bien sûr, mais ou des services ou voilà ou des lieux du patrimoine qui voudraient mettre en avant, et après ça fait un parcours ludique qu'on peut proposer aux citoyens, aux touristes et qui serait co-construit du coup avec ce collectif là qui serait
un jeu,
à la
quoi.
Balade. Un jeu de piste,
oui.
Ludique.
Et qu'on exactement. Peut faire de n'importe où, en plus. Il y aura une urbaniste.
Urbaniste participative.
Anne Le Guillou. C'est quoi un urbaniste participateur?
Alors, un urbaniste, on connaît hein,
bah oui.
Le métier de l'urbaniste, c'est quelqu'un qui va travailler sur les logiques de construction, de développement, que ce soit de routes, d'immeubles, etc. Et participatif, c'est le côté, maintenant, ça se fait plus seulement avec les élus ou avec les spécialistes de la question, ça se fait collectivement avec les citoyens. Et ce que fait Anne Le Guillou, c'est que quand elle travaille, par exemple, sur la requalification d'une place ou sur le réaménagement de circuits piétons dans une ville, elle va le faire avec les habitants, de manière co-construite. Et voilà, c'est ça un urbanisme participatif. Et Anne, qui vient de Montélimar, est habituée à faire ses balades urbaines là. Donc on l'a invitée à participer pour qu'elle nous transmette tout ce savoir-là. Mais je laisse la surprise à ceux qui viendront. Et donc il est conseillé de s'inscrire avant. Juste pour une question d'organisation, parce que le groupe est forcément un peu limité. Hein. On va pas être plus de 20. Ce qui est déjà pas mal, si on veut être efficace et tous s'écouter, mais si on est plus, c'est une très très bonne chose, et puis on fera une nouvelle édition, ça c'est pas un souci, mais en tout cas, on sera aussi le matin sur le marché, le samedi matin, pour flyer un petit peu, puis aller à la rencontre des citoyens pour parler de ce projet-là.
Et donc, on s'inscrit auprès de toi, Valérie, hein ?
Oui, alors vous pouvez m'envoyer un mail à v.dumesny, D-U-M-E-S-N-Y, @villagevivant.com ou par téléphone au 06 50 04 83 67. Et toutes ces informations se retrouvent sur notre Facebook, Village Vivant Cré, ou aussi sur notre site internet, villagevivant.com, au pluriel aussi, où là, vous retrouverez non seulement ces informations-là, mais aussi, surtout, toutes les informations sur le projet, parce qu'on a une page dédiée, du coup, à toutes les actions qui ont déjà été menées, là, depuis le mois de septembre, sur DIE.
Tous ces liens seront évidemment sur notre site également, en compagnie de cette interview que vous pourrez réécouter et télécharger. Village Vivant, tu parlais de Cré, c'est quelque chose de plus global ?
Sur ce qu'on fait nous, la proposition de méthodologie et de résultats, on est les seuls, entre guillemets, à proposer ces process-là. Après, il y a différentes structures qui travaillent sur la revitalisation. Il y a beaucoup d'urbanistes qui sont sur ces questions-là. Après, il y a aussi des choses... je dirais plus restreintes qui vont travailler sur les boutiques spécifiquement. Par exemple, tout ce qui est boutique éphémère. Maintenant, il y a des structures qui œuvrent spécifiquement sur ça. Mais nous, on est assez innovants dans notre process. Et peut-être pour rappeler quand même un petit peu plus globalement les actions de Village Vivant, parce qu'on n'en a pas parlé au début, mais c'est vraiment de travailler donc sur les locaux vacants par des méthodes spécifiques. La première, c'est donc les démarches participatives avec plusieurs outils qui permettent aux citoyens de se relier au projet et aussi d'être dans une co-construction avec l'ensemble des acteurs locaux. Je parlais tout à l'heure les commerçants, les offices de tourisme, les élus, les associations locales, culturelles, et j'en oublie, et les occupants du rez-de-chaussée, etc. Enfin, tous ceux qui participent à la vie de la cité, avec qui on va vraiment démarrer les actions et co-construire avec eux la suite du programme. Et là, c'est complètement ce dans quoi on est en ce moment à dit. On a créé un comité de pilotage avec tous ces acteurs-là qui sont un peu garants des résultats et avec qui on valide l'ensemble des étapes. Et ensuite, on va aller chercher des locaux vacants à réhabiliter, à prioriser, parce qu'on voilà, on peut pas tout faire en même temps, et puis il faut vraiment qu'on s'appuie sur des lieux stratégiques au démarrage. Donc ça, on va aussi faire participer la population pour leur demander où est-ce que ça leur semble le plus stratégique, le plus opportun. C'est pas forcément une question d'emplacement, parfois c'est parce que justement le local est tellement dans un sale état qu'il faut y aller. Là, voilà, c'est le challenge, mais c'est du stratégique aussi. Et ensuite, on va aller accompagner les porteurs de projets. Donc ça, c'est mon collègue Sylvain Dumas, qui est aussi tous les mardis à la communauté de communes qui accueille les porteurs de projets qui veulent créer une activité, qui va les conseiller. Donc au sein de Village Vivant, du coup, il va accompagner spécifiquement les porteurs de projets, justement sur des méthodologies qui permettent d'être au goût du jour, entre guillemets. Et puis ensuite, la troisième activité de Village Vivant, qui est un peu le socle de toutes ces actions-là, c'est la création d'une foncière à l'image de Terre de Liens, en fait, qu'on connaît bien ici, où on rachèterait des locaux, on les rénove et après on les loue à des porteurs de projets. Et l'achat de ces locaux se fait par de l'investissement participatif, où là on invite les citoyens à la fois à se positionner sur quel local et stratégique, mais aussi du coup à le financer de manière participative pour qu'il puisse devenir un consommateur. Voilà. Et ça, Adi, c'est la proposition qu'on a fait pour la deuxième année, donc 2018-2019, enfin, à partir de septembre 2018 et jusqu'à septembre 2019, où on devrait être là dans la concrétisation complète de cette foncière à aller racheter un local avec les citoyens.
Village Vivant donc vous propose une balade urbaine au cœur de Die le samedi 18 novembre 2017. On en parlait à l'instant. Rendez-vous à 14h à l'atelier, le tiers-lieu de la place du marché. Il y aura plein d'autres actions qui vont suivre derrière. Est-ce que, sans rentrer dans les détails, tu peux nous énumérer 2-3 trucs qu'on va faire dans cette première année avant la deuxième qu'on vient de décrire?
Oui, on a cette balade. Ensuite, on va construire ludique, ces jeux de pistes ludiques avec les citoyens qui seront partants pour le faire. Ensuite, il y aura une enquête participative pour justement révéler ce rêve en termes de commerce et services de proximité. Ça, ce sera plus en début d'année 2018.
Elle aura quel support ? Papier ? Internet ?
Non, ce sera Internet. Ce sera quelque chose sur Internet, mais qu'on pourra remplir sur papier si besoin. Nous, on ira faire quelques marchés, se présenter... même chez des gens, comme ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. On essaye de... Et puis après, il y a aussi tous ces citoyens et les commerçants qui sont mobilisés à nos côtés, les élus, enfin tous les acteurs locaux qui vont pouvoir relayer ces informations-là. On va mettre en place un QG. Là, c'est bientôt prêt. Je ne peux pas dire où c'est, mais je sais que ce sera tous les mardis.
Dans une vitrine vacante ?
Exactement.
Bon, c'est bien.
Voilà, pour être dans la concrétisation de nos valeurs. Donc là, on est en train de démarcher un peu les propriétaires pour qu'ils partent dans cette aventure avec nous, mais qu'on puisse être présent donc tous les mardis à partir de décembre, si on voilà, pour être large, pour être sûr, et où voilà, les citoyens pourront venir à notre rencontre et puis voilà, faire vivre dès à présent un local vide. On invitera j'aimerais bien qu'on fasse des boîtes à idées à déposer chez les commerçants pour que les gens puissent s'exprimer comme ça un peu à la volée quand ils le souhaitent. Et là, j'inviterai les citoyens à venir construire un peu des boîtes à idées avec nous dans ce QG. Et puis ensuite viendra, ce sera plutôt à partir du printemps 2018, la valorisation concrète des vitrines vides avec les expositions d'artistes. Donc on partira à la recherche des artistes, on fera certainement une vitrophanie, on posera ce mobilier urbain participatif où là on aura besoin de l'avis des citoyens pour savoir ce qu'ils veulent révéler pour l'économie circulaire. Et puis voilà, tout ça, ça se construit vraiment avec les gens qui sont à nos côtés. Et il y a plein de surprises dont on n'a même pas encore pensé qui sortiront parce que les gens qui nous entourent sont vraiment force de proposition et qu'il faut qu'on... C'est important de se coller aussi aux spécificités de ce territoire-là. Et j'avoue que là, depuis 2 mois où j'arpente les rues de Die, on est dans un territoire où il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de belles intentions. Donc nous, on canalise ça et puis on ne peut pas tout faire. Mais en tout cas, c'est pas l'envie qui manque. Et derrière tout ça, il y a avant le développement des activités de proximité, il y a vraiment le maintien des commerces de proximité. Et on travaille en étroite collaboration avec ces Toudis qui sont très, très engagés dans cette problématique-là et qui ont vraiment, en dehors de l'envie que leur commerce fonctionne, qui ont envie que leur centre-ville soit vivant et qui mettent beaucoup d'énergie. Et donc nous, on est là pour abonder dans cette énergie. Et c'est vrai qu'on attend les citoyens aussi de ce côté-là d'aller soutenir les commerçants en consommant, ça c'est une chose, mais aussi en étant présent. Et les commerçants ont besoin de ça et... que les gens passent, que les gens rentrent dans les magasins et je pense que notamment l'idée de mettre des boîtes à idées dans les commerçants, c'est aussi pour qu'il y ait des échanges qui puissent naître comme ça dans les commerces sur cette question-là.
Voilà, sans forcément y aller pour consommer. C'est tout dit, on en a parlé à la communauté de communes du Diois, bien sûr. Je vois que vous êtes aussi aidé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bien, hein, parce que ça a l'air difficile de se faire aider par cette région en ce moment. L'Europe aussi, et puis un logo que je ne connais pas.
Oui, mais ça, c'est les logos FEDER et LEADER. En fait, ça fait beaucoup de logos, mais ça, c'est les contraintes de l'Union européenne. Donc, on est soutenu, nous, on est commandité par la communauté de communes, mais qui a levé un LEADER, donc qui est les financements européens, pour financer le développement des zones rurales, en fait. Donc, c'est très, très intéressant, le côté, c'est le global qui finance le local. Et donc, effectivement, sur l'affiche, il y a 4 logos, parce que l'Europe... impose un peu tous ces logos-là. Mais tout ça, c'est une question un peu d'image. Mais,
très bien.
L'Europe
comme ça,
finance...
on sait tout.
Oui, non, mais on sait tout et c'est transparent et c'est très intéressant. Mais c'est vrai que peut-être ce qui est important de rappeler, c'est que dans ce cadre-là, en fait, l'Europe finance l'écosystème local et la consommation et le financement local. Et nous, on rentre dans ce cadre-là. Donc, on est bien dans ces problématiques-là de relocalisation des activités. Et le Diwa est très pris par ces problématiques-là. Hein. Nous, dans la communauté de communes, c'est vraiment des choses des sujets sur lesquels on discute énormément. On en parlait au tout début, de se dire OK, on relocalise l'économie parce que la richesse du Diwa, elle est énorme. Et on parle de la Clairette souvent parce que c'est le plus connu, mais il n'y a pas que ça. Et cette vallée-là, elle est riche. Il ne faut pas le perdre.
Village vivant, en plus ça veut tout dire. Villagevivant.com, un site internet, donc au pluriel. Hein. Valérie, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ?
Ce qu'on peut rappeler pour bien marteler
la balade.
Voilà, non, mais il y a la balade du 18 novembre. Et puis, y a vraiment l'appel aux citoyens de ne pas hésiter à nous contacter pour se relier au projet. Il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait. De nous suivre sur Facebook, parce que c'est là qu'on va publier un peu toutes les petites nouvelles des actions qu'on mène. Et donc de ne pas hésiter à nous contacter et à participer à toutes les réunions qu'on fera après. Qui seront plus des réunions de travail. Là, c'est des événements grand public, hein, la balade. Et puis après, suivra avec tous ceux qui nous auront contactés des réunions très concrètes sur des sélections de locaux vacants, les sélections de porteurs de projets. Et on a besoin des citoyens du Diwa pour parer à la désertification du centre-ville qui est en train de se mettre en place.
Voilà. Sinon, vous pourrez vous plaindre que ça a été fait par d'autres et encore jamais être content. Hein. Valérie Dumesny, merci pour cette présentation. Et donc, on est amené à se revoir, je pense, à la radio sur différentes actions, probablement. Mais il va falloir qu'on vous suive un peu.
Ouais. J'espère, oui, qu'on aura l'occasion de faire des petites émissions comme ça, citoyennes, au cœur de Die. C'est un plaisir de pouvoir être là, en fait. De pouvoir, voilà, on ne le dit pas, mais Radio Diwa fait partie de ces activités qui continuent à renforcer le centre-ville, puisqu'on est là en plein centre-ville. En plein milieu.
C'est parfois difficile d'y rester dans le centre-ville, mais on y reste. Merci.
Au revoir.
Interview.
Ok. Burberry.
L'interview du jour.